Ton nom secret sera de 36 lettres.
J'avais exécuté mon morceau de bravoure. À présent, je devais des explications. Je les avais données les jours suivants, longues, minutieuses, documentées, tandis que sur les tables de Pilate, je fournissais à Belbeau preuve sur preuve qu'il suivait, l'œil de plus en plus embrumé, allumant ses cigarettes avec ses mégots, lançant toutes les 5 minutes son bras derrière lui, le verre vide avec un semblant de glace au fond, et Pilate de se précipiter pour ravitailler sans attendre un ordre plus précis. Les premières sources étaient justement celles où apparaissaient les premiers récits sur les Templiers, de Gérard de Strasbourg à Joinville. Les Templiers étaient entrés en contact, parfois en conflit, plus souvent en une mystérieuse alliance, avec les assassins du vieux de la montagne. L'histoire était naturellement plus complexe. Elle commençait après la mort de Mahomet, avec la scission entre les fidèles de la loi ordinaire, les sunnites et les partisans d'Ali, gendre du prophète, mari de Fatima, qui s'était vu dérober la succession. C'étaient les enthousiastes d'Ali qui se reconnaissaient dans la Shia, le groupe des adeptes, lequel avait donné vie à l'aile hérétique de l'islam, les chiites. Une doctrine initiatique qui voyait la continuité de la révélation non pas dans la reméditation traditionnelle des paroles du prophète, mais dans la personne même de l'imam, seigneur, chef, épiphanie du divin, réalité théophanique, roi du monde. Or, qu'arrivait-il à cette aile hérétique de l'islamisme qui était de plus en plus infiltrée par toutes les doctrines ésotériques du bassin méditerranéen, des manichéens aux gnostiques, des néoplatoniciens à la mystique iranienne, par toutes ces suggestions que nous avions suivies depuis des années dans le cours de leur développement occidental? L'histoire était longue. Nous ne réussissions pas à la débrouiller, d'autant plus que les différents auteurs et protagonistes arabes avaient des noms très longs. Les textes les plus sérieux les transcrivaient avec les signes diacritiques, et tard le soir, nous ne parvenions plus à distinguer entre Abu Adi al-Mu'abad, Ali ibn Razam at-Tayyi al-Kufi, Abu Muhammad Abayadullal, Abu Muiniddin, Nazir ibn Osro Marwazi Kobaniani. Je crois qu'un arabe se serait trouvé dans le même embarras pour distinguer entre Aristote, Aristoxène, Aristarque, Aristide, Anaximandre, Anaximène, Anaxagore, Anacréon et Anacharsis. Mais une chose était certaine. Le schisme se scinde en deux tronçons. L'un dit duodécimain, qui reste dans l'attente d'un imam disparu et à venir. Et l'autre, celui des Ismaéliens, qui naît dans l'empire des Fatimides du Caire, et puis, du fait des vicissitudes diverses, s'affirme comme un ismaélisme réformé en Perse, par l'action d'un personnage fascinant, mystique et féroce, Hassan Saba. Et c'est là que Hassan installe son propre centre, son imprenable trône à lui, au sud-est de la Caspienne, dans la forteresse d'Alamout, le nid d'aigle. C'est là qu'Hassan s'entourait de ses acolytes, les Fidaïoun ou Fédaïnes, fidèles jusqu'à la mort, qu'il utilisait pour accomplir ses assassinats politiques, instrument de la Jihad Hafi, la guerre sainte secrète. Les Fédaïnes, ou quel que fût le nom qu'il leur donnait, deviendraient par la suite tristement célèbres sous le nom d'assassins, qui n'est pas un beau nom maintenant, mais alors et pour eux, il était splendide, emblème d'une race de moines guerriers qui ressemblait beaucoup aux Templiers, prêts à mourir pour leur foi, chevalerie spirituelle. La forteresse ou le château d'Alamout, la pierre, construite sur une crête aérienne longue de 400 mètres et large parfois de quelques pas, 30 au maximum. De loin, pour qui arrivait sur la route de l'Azerbaïdjan, elle apparaissait comme une muraille naturelle, blanche, aveuglée de soleil, azurée dans le couchant pourpré, pâle à l'aube et sanglante dans l'aurore, en de certains jours enfumée au milieu de nuages ou étincelante d'éclairs. Le long de ses bords supérieurs, on distinguait avec peine une finition imprécise et artificielle de tours tétragones. D'en dessous, on eût dit d'une série de lames de rochers qui se précipitaient vers le haut sur des centaines de mètres, qui vous surplombaient menaçantes. Le versant le plus accessible était un glissant éboulé de pierrailles, qu'aujourd'hui encore les archéologues n'arrivent pas à escalader. En ce temps-là, on y accédait par quelques secrètes montées d'escaliers rongées en colimaçon dans la roche, comme si on avait dépulpé une pomme fossile et qu'un seul archer suffisait à défendre. Inexpugnable, vertigineuse dans l'ailleurs. Alamout, le roc fortifié des assassins. Vous ne pouviez l'atteindre qu'en chevauchant des aigles. C'est là qu'Hassan régnait, et après lui, ceux que l'on connaîtrait comme le vieux de la montagne et le premier d'entre tous, son sulfureux successeur, Sinan. Hassan avait inventé une technique de domination sur les siens et sur ses adversaires. À ses ennemis, il annonçait que s'ils ne s'étaient pas pliés à ses volontés, il les aurait tués. et on ne pouvait échapper aux assassins. Nizamul Mulk, premier ministre du sultan quand les croisés s'escrimèrent encore à conquérir Jérusalem, alors qu'il était transporté en litière pour aller chez ses femmes, est poignardé à mort par un sicaire qui s'approche de lui travesti en derviche. L'Atabek de Hims, alors qu'il descendait de son château pour se rendre à la prière du vendredi, entouré d'une troupe de gens armés jusqu'aux dents, est poignardé par les sicaires du vieux. Sinan décide de tuer le marquis chrétien Conrad de Montferrat. Il instruit deux des siens qui se glissent parmi les infidèles, mimant leurs usages et leurs langues, après une dure préparation. Travesti en moine, alors que l'évêque de Tyr offrait un festin au marquis sans méfiance, on lui saute dessus et le blesse. Un assassin est tué sur le champ par les gardes du corps, l'autre se réfugie dans une église. Il attend qu'on y porte le blessé, l'assaille, l'achève, succombe bien heureux. Car, disaient les historiographes arabes d'obédience sunnite, et puis les chroniqueurs chrétiens, d'Odéric de Pordenone à Marco Polo, le vieux avait découvert une manière atroce pour rendre ses chevaliers de la plus extrême fidélité, jusqu'au dernier sacrifice, pour en faire des machines de guerre invincibles. Il les emportait, tout jeunes hommes endormis, au sommet du roc fortifié, les énervait de délices, vins, femmes, fleurs, déliquesses en banquet, les étourdissait de haschich, d'où le nom de la secte. Et quand ils n'auraient plus su renoncer aux béatitudes perverses de cette fiction de paradis, ils les emportaient dehors, dans leur sommeil, et les plaçaient devant cette alternative. Va et tue. Si tu réussis, ce paradis que tu quittes sera de nouveau à toi et pour toujours. Si tu échoues, tu retombes dans la gêne quotidienne. Et eux, étourdis par la drogue, soumis à ses volontés, ils se sacrifiaient pour sacrifier. Tueurs à la mort condamnés, victimes damnées à faire des victimes. Comme ils les craignaient, comme ils en fabulaient les croisés dans les nuits sans lune quand sifflait le simoun du désert. Comme ils les admiraient, les Templiers, ces brutes braves subjugués par cette claire volonté de martyr qui se pliaient à leur verser un péage, leur demandant en échange des tributs formels, en un jeu de mutuelle concession, complicité, fraternité d'armes, s'étripant sur les champs de bataille, se caressant en secret, se murmurant tour à tour leurs visions mystiques, leurs formules magiques, les subtilités alchimiques. Par les assassins, les Templiers apprennent leurs rites occultes. Seule la veule ignorance des baillis et des inquisiteurs du roi Philippe les avait empêchés de comprendre que le crachat sur la croix, le baiser sur l'anus, le chat noir ou l'adoration du Baphomet n'étaient rien d'autre que la répétition d'autres rites que les Templiers accomplissaient sous l'influence du premier secret qu'ils avaient appris en Orient, l'usage du haschich. Et alors, il était évident que le plan naîtrait, devait naître, là. Par les hommes d'Alamout, les Templiers apprenaient l'existence des courants souterrains. Avec les hommes d'Alamout, ils s'étaient réunis à Provins et ils avaient organisé l'occulte trame des 36 invisibles. Et c'est pour cela que Christian Rosenkreutz voyagerait à Fès et en d'autres lieux de l'Orient, pour cela que vers l'Orient se tournerait Postel, pour cela que de l'Orient et de l'Égypte, siège des Ismaéliens fatimides, les magiciens de la Renaissance emporteraient la divinité éponine du plan, Hermès, Hermès Teute ou Thoth. Et c'est sur des figures égyptiennes que l'intrigant Cagliostro avait fantasmé pour ses rites. Et les jésuites moins insensés que nous n'avions supposé avec le bon Kircher, s'étaient tout de suite jetés sur les hiéroglyphes, et sur le copte, et sur les autres langages orientaux, l'hébreu n'étant qu'une couverture, une concession à la mode de l'époque.